VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 15h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. Au Togo, la principale coalition de l'opposition appelle à une journée Togo mort aujourd'hui, jour du démarrage de la campagne pour les législatives du 20 décembre. Cette coalition de 14 partis entend ainsi demander l'arrêt du processus électoral et elle promet de tout faire pour empêcher la tenue du scrutin. Idriss Fall a recueilli la réaction de Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique et porte-parole du gouvernement togolais.
D'abord, je ne sais pas comment on peut dire qu'un pays peut être mort. C'est vrai que de temps à autre, on peut imaginer une ville morte pendant quelques heures, mais imaginez que les paysans, les commerçants, ceux qui doivent aller au travail dans la fonction publique, dans les administrations privées, dans les banques, les assurances, ceux qui se battent pour avoir leur pain quotidien, imaginez qu'ils cesseraient d'aller à leurs activités, qu'ils n'iraient pas à leur lieu de travail, qu'il n'y aurait pas de commerce juste pour faire plaisir à un groupe de partis politiques. Je crois que c'est un peu de l'amusement. Et en réalité, les Togolais se désintéressent totalement de ce que cette coalition a commencé à faire.
Cette coalition demande peut-être une reprise de l'ensemble du processus électoral, reporter les élections du 20 décembre. Est-ce que vous pensez que c'est possible?
Non, ce n'est pas une demande raisonnable parce qu'il n'y a pas de justification, il n'y a pas de raison qui pourrait conduire à la reprise intégrale du processus électoral. La campagne électorale démarre et le 20 décembre, il y aura le scrutin des législatives.
Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique et porte-parole du gouvernement togolais. Afrique de l'Ouest toujours, plus d'un an après son arrestation à Paris, François Compaoré, le frère du président burkinabé déchu Blaise Compaoré, sera demain mercredi si la justice française accepte de l'extrader vers le Burkina Faso. François Compaoré est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo le 13 décembre 1998 dans le sud du Burkina. Le point avec Bagassi Koura.
Le parquet général à Paris s'est dit favorable à l'extradition. Les avocats de Compaoré, Maître Pierre-Olivier Sûr et Mathias Chisportich, dénoncent le caractère irrégulier et exclusivement politique de la procédure. Initialement prévue en juin, la décision a dû être reportée parce que la Cour réclamait au Burkina Faso des éléments matériels précis. Classé en 2003 après un non-lieu, le dossier Norbert Zongo a été rouvert après la chute de Blaise Compaoré fin octobre 2014. Depuis, les deux frères se sont exilés en Côte d'Ivoire où ils ont obtenu la nationalité ivoirienne. François Compaoré, 64 ans, a été arrêté à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle de Paris en octobre 2017 après un mandat d'arrêt émis quelques mois plus tôt par Ouagadougou. Il est placé sous contrôle judiciaire en France. Le 13 décembre 1998, notre confrère Norbert Zongo et trois autres personnes ont été retrouvés morts calcinés dans leur véhicule à Sapui, dans le sud du Burkina Faso. À l'époque, il enquêtait sur le cas de David Ouedraogo, le chauffeur de François Compaoré, torturé à mort.
Politique au Gabon, tous les plus hauts responsables du Gabon, dont le Premier ministre et les vice-présidents, se trouvent aujourd'hui à Rabat au Maroc, où le président gabonais Ali Bongo Ondimba est hospitalisé. Emmanuel Issoze Ngondé, Premier ministre, Pierre Claver Maganga Moussavou, vice-président, Marie-Madeleine Mborantsuo, présidente de la Cour constitutionnelle, ainsi que Brice Lacouche Alianga, directeur de cabinet du président Bongo, sont arrivés lundi soir au Maroc. Ali Bongo Ondimba, lui, y séjourne depuis le jeudi 29 novembre dans un hôpital militaire de la capitale marocaine pour y poursuivre sa convalescence après plus d'un mois passé dans un hôpital de Riyad en Arabie Saoudite pour une maladie qui reste officiellement inconnue. Lundi, le roi du Maroc, Mohamed VI, ami de longue date du président Bongo, lui a rendu visite à l'hôpital.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
République démocratique du Congo, l'ambassade des États-Unis à Kinshasa a rouvert ses portes au public ce mardi après 8 jours de fermeture en raison d'une possible menace terroriste contre ses installations dans le pays. La mission américaine était fermée depuis le 26 novembre pour cause de sécurité. Dans un premier temps, les autorités congolaises avaient estimé que cette fermeture traduisait une volonté de créer une psychose inutile parmi les populations. avant de se raviser et de déclarer la menace sérieuse. Les mesures prises par l'ambassade américaine interviennent en pleine campagne électorale pour des scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux prévus le 23 décembre en RDC. La présidentielle est censée élire le successeur du président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 et qui ne peut plus se représenter. Le chef de l'État a désigné son ex-ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, comme candidat de la majorité. Il affrontera une dizaine d'adversaires, dont deux ténors de l'opposition, Félix Tshisekedi et le député Martin Fayoulou. À 19 jours des élections, Félix Tshisekedi, l'un des trois principaux candidats à la présidentielle, s'est félicité hier du ralliement de l'ancien soutien du président sortant, Joseph Kabila. Le point avec Eddy Issango.
Félix Tshisekedi s'est affiché hier soir à sa permanence avec Tryphon Kinkemoulumba, un de 21 candidats qui semble faire la figuration derrière les trois têtes d'affiche. Ancien ministre de Mobutu, M. Kinkemoulumba a été par la suite ancien rebelle puis ministre de Joseph Kabila. Il avait même lancé en 2015 l'association Kabila Désir, devenue parti politique qui encourageait les présidents Kabila à rester au pouvoir au-delà de son second et dernier mandat. Lorsque le président Kabila a annoncé qu'il ne se présentait pas, M. Kinkemoulumba a lancé en août sa propre candidature. Par ailleurs, des proches du candidat Ramazani Shadari ont accusé l'autre candidat d'opposition, Martin Fayoulou, de faire l'apologie de la violence contre les processus électoraux pour empêcher la tenue des élections. M. Fayoulou s'en défend et répète qu'il veut des élections sans la machine à voter. Il est soutenu par Moïse Katumbi, ex-gouverneur du Katanga en exil, et Jean-Pierre Bemba, ex-vice-président. De son côté, l'opposant Félix Tshisekedi dit vouloir aller aux élections avec ou sans la machine à voter.
Politique au Burundi maintenant, retour sur le mandat d'arrêt international lancé par le procureur général de la République du Burundi contre l'ex-président Pierre Buyoya et 16 autres personnalités militaires ou proches de l'ancien chef d'État burundais. L'opposition, tout comme M. Buyoya, parle de manipulation politicienne. Reportage de notre correspondant au Burundi, Christophe Nkurunziza.
La nouvelle largement commentée à Bujumbura concerne ces mandats d'arrêt lancés contre les dignitaires des anciens régimes burundais avant l'éclosion de la démocratie en 1993. Pierre Buyoya, l'ancien président aujourd'hui envoyé spécial de l'Union africaine au Mali, est en tête de liste des personnes recherchées. Si le pouvoir affirme vouloir mettre fin à l'impunité au Burundi, l'opposition parle, elle, de chasse à l'homme basée sur l'ethnie. Liberate Nzofabarushe, 45 ans, et Tutsi, on a tué certains membres de sa famille juste après la mort.
C'est bien que la justice travaille, mais après la mort du président Ndadaye, il y a des innocents qui ont été tués dans les collines par la milice. Gédébou, c'était des jeunes démocratiques, Ufrodébou. Si la justice devait se faire, il faut qu'il se fasse pour tout le monde, pour tous les Burundais. Sinon, c'est la justice des puissants qui ne ramène pas la paix. Pour tous les Burundais.
Syriac Nirinzomvamunda, juriste, insiste lui aussi pour une justice pour tous, comme le réclame le clergé burundais.
Vraiment, ceux qui ont assassiné Ndadaye, il faut quand même qu'ils soient punis. Si on punit ceux qui ont assassiné Ndadaye, ce n'est pas seulement ceux qui ont commis les crimes. Il faut aussi que tous les côtés donc, soient jugés. Si on juge ceux qui ont assassiné Ndadaye, ce ne serait pas une justice équitable. Il y a vraiment ceux qui ont commis les massacres, notamment à Bugendana. Je crois quand même que tous ceux qui ont tué, ils ont commis des crimes. Il faut quand même qu'ils soient jugés.
L'ancien journaliste Jean de Dieu Saint-Guillaume va aujourd'hui analyse de la politique burundaise, ne comprend toujours pas le pourquoi de cette mesure.
Comme beaucoup d'autres Burundais, je ne comprends pas tout de suite ce que visent ces mandats d'arrêt. Et ce qui revient à dire que finalement, il y a une main d'un politique. On veut nous faire oublier, comme si cela était possible, nous faire oublier des dossiers qui sont d'actualité, des dossiers qui devraient être mis en avant, que ce soit à Arusha ou ailleurs, sur la table des négociations pour être débattus, mais que la justice le fasse en toute indépendance. Est-ce qu'elle est indépendante? Est-ce que c'est la décision qui a été prise par la justice burundaise que nous connaissons? Non. Et ça peut être dangereux. L'accord d'Arusha avait octroyé une amnistie provisoire pour tous ceux qui sont impliqués dans des situations qui ont tendé le pays. Alors maintenant qu'on a enterré la cour d'Arusha, on vient de trouver l'occasion pour arrêter, pour punir, pour se venger.
Pour l'ancien président Pierre Buyoya, la justice risque une fois de plus d'être instrumentalisée au risque de ramener le pays dans des haines ethniques. L'Union africaine a appelé le gouvernement burundais à arrêter toute mesure qui vise à nuire à la recherche d'un consensus sur la crise actuelle. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.